Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et ça y est, Franck Ferrand s'est installé au micro d'Europe 1, prêt à nous raconter une nouvelle histoire, mais toujours à sa manière. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les archives d'autrefois, vous savez, sont bourrées d'aventures extraordinaires qui dorment bien tranquillement en attendant qu'on les ressuscite. Eh bien, j'aimerais dans les semaines qui viennent en extraire quelques-unes comme ça de temps en temps pour vous faire toucher du doigt ce que pouvait être la vie de nos ancêtres.
Alors pour commencer, vous nous proposez le cas d'un jeune homme enfermé sur lettres de cachet et qui va passer sa vie derrière les barreaux.
Oui, et ce sera pas faute de s'évader un certain nombre de fois, vous allez le voir. Surtout, nous allons profiter de son cas pour évoquer les redoutables lettres de cachet. Mmh. En quoi consistaient ces documents, qui pouvait les utiliser? À quelle fin? Autant de questions que nous allons poser à Claude Quettel.
Et nos auditeurs, je le rappelle, peuvent se rendre sur le site internet d'Europe 1 afin de vous poser eux aussi leurs questions.
Mais oui, ils sont les bienvenus, évidemment. En attendant, je vous propose de nous pencher sur le destin singulier d'un certain d'Henri dit Latude.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Au printemps 1749, d'Henri est un jeune homme charmant de 24 ans. Il est originaire du Languedoc. Il n'a pas connu son père, sa mère était servante et lui-même a été pris tout jeune comme arpète chez un chirurgien des armées. Vous voyez qu'on est dans des origines très modestes, rien de bien exaltant. D'Henri rêve évidemment d'une autre vie, lui voudrait la richesse, il voudrait la gloire. Alors il commence par monter à Paris. Quand on est très ambitieux au milieu du XVIIIe siècle, le premier réflexe, c'est de se rapprocher de l'astre du moment, celle qui depuis 4 ans règne sur le cœur du roi Louis XV, la marquise de Pompadour. Reste à trouver une façon assez efficace de se faire remarquer de la marquise de Pompadour. Alors, là-dessus, d'Henri a sa petite idée. Oh, c'est pas une idée très honnête. Seulement, comme il n'a ni moyens ni relations, il va bien falloir qu'il se débrouille. Il commence par fabriquer une bombe, une vraie bombe, mais une bombe inoffensive. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Eh bien, pour le moment, le jeune homme, avec sa bonne tête, s'en vient tambouriner à la porte de la marquise, à Versailles, dans son hôtel particulier. C'est l'intendant qui le reçoit. Qu'est-ce qu'il veut ce petit gars? Oh, ce qu'il veut, il veut sauver la vie de madame la marquise. D'Henri a bien appris son rôle. La veille, dans les jardins des Tuileries, il aurait surpris une conversation entre des individus suspects qui parlaient d'envoyer un colis piégé à madame de Pompadour. Alors vous comprenez, il faudrait la prévenir. C'est ça mon petit, on lui dira. Vous avez compris le manège. Dès le lendemain, on livre à Versailles un paquet bizarre adressé à madame de Pompadour et à remettre en main propre. Vous vous doutez bien que la favorite se garde d'ouvrir le paquet elle-même. Elle transmet le colis à son médecin, le docteur Quenet, qui, courageux mais pas téméraire, le fait ouvrir par son propre valet. Verdict, il n'y a pas là-dedans de quoi tuer une mouche. Seulement de petites ampoules, à l'époque on appelle ça des larmes bataviques. En fait, ce sont des accessoires de théâtre, vous savez, ce sont des ampoules d'air. Et elles sont vides d'ailleurs, hein, l'ampoule, l'intérieur est vide. Et ce qui fait que quand vous cassez le bout de l'ampoule, ça crée par dépression une petite détonation. Bon, en temps normal, madame de Pompadour aurait sans doute souri. Seulement, il se trouve qu'on n'est pas en temps normal. La marquise vient tout juste de faire destituer le comte de Maurepas et elle se croit menacée, évidemment, par les amis du ministre qui est parti furieux. Aussi prend-elle au sérieux la moindre alerte. Et ça, d'Henri ne pouvait pas le deviner. Disons que sa bombinette ne pouvait pas plus mal tomber. Comble de malchance, afin de gommer ce que la péripétie pourrait avoir de ridicule, le docteur Quenet en rajoute sur la nocivité du colis piégé. Une enquête est ouverte. Naturellement, la police s'intéresse tout de suite au jeune homme de la veille. Il a donné son adresse, ce qui fait que le jour même, d'Henri voit débarquer chez lui un exempt de police qui l'interroge sur ce qu'il aurait pu entendre, paraît-il, la veille aux Tuileries. Le jeune homme croit son heure venue. Il en fait beaucoup, il raconte son histoire, il en fait trop, pour tout vous dire. L'enquêteur flaire aussitôt l'arnaque. Il demande à Denry une déposition écrite. Oh, c'est pas difficile, il compare l'écriture avec celle des enveloppes. Pas de doute, c'est bien le même homme. Le filou est arrêté dans la foulée, transféré à la Bastille sous le coup d'une bonne lettre de cachet. Et je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir ce que sont exactement ces lettres de cachet. Le pauvre garçon se mord les doigts, il n'avait pas envisagé les choses de cette façon. Pour lui, ce sont les gros ennuis qui commencent. Alors pendant les 6 premières semaines, Denry garde le silence, un silence qui au passage accrédite la thèse du complot. Et puis il passe aux aveux devant le lieutenant général de police. Tout ça, dit-il, n'était qu'une mise en scène, histoire de se faire remarquer. Les aveux du coupable sont transmis au roi en personne. Ben oui, parce qu'après tout, il y va de la sécurité de Madame de Pompadour. Manque de chance pour Denry. Louis XV ne croit pas un traître mot de cette histoire de mise en scène. Si ce garçon est fou, qu'on le maintienne sous les verrous, dit-il. Et voilà notre jeune ambitieux pris à son propre piège. Il va devoir se faire au strict régime de la Bastille. À longueur de lettres, Denry se plaint de la nourriture, de la saleté. Or, à qui se plaint-il ? À Madame de Pompadour. Pour avoir la paix, celle-ci le fait transférer à Vincennes, autre prison d'État, au régime peut-être un petit peu moins sévère. Denry attend, il continue d'écrire des lettres et finalement il décide de faire le mur. Ça se passe au cours d'une promenade en plein air. Denry parvient à s'éloigner un petit peu des deux gardiens. Il se dirige vers la sortie. Une sentinelle est là qui garde l'issue. Le fugitif fait semblant d'être essoufflé. « Avez-vous vu monsieur de Saint-Sauveur » demande-t-il. « Je le cherche partout. » Et avant que la sentinelle ait eu le temps de dire ouf, il a franchi la porte. 30 pas plus loin, deuxième sentinelle. « L'abbé de Saint-Sauveur, je cherche monsieur de Saint-Sauveur, vous ne l'auriez pas vu ?» La sentinelle fait non de la tête, elle livre le passage. Cette fois, Denry est dehors, il est libre. Pour combien de temps, c'est une autre histoire.
Un extrait sur Europe 1 du prologue d'Hippolyte et Aricie de Rameau, Franck.
Court extrait. Hein.
Très court extrait.
Denry attend la tombée de la nuit pour entrer dans Paris. Il file se réfugier chez une petite lingère de ses connaissances qui l'accueille volontiers. Il est jeune, il est charmant, il est en fuite. De plus, il n'a rien fait de vraiment mal. D'ailleurs, lui-même en est tellement certain qu'il adresse une lettre au docteur Quenet pour lui demander d'intervenir auprès de la marquise. Or, dans cette lettre, il donne son adresse. Dès le lendemain, Denry et sa lingère sont arrêtés. Elle va faire 3 semaines de cellule, mais lui, le récidiviste, il se retrouve cette fois en cellule de force, entravé par les poignets et les chevilles. Le malheureux garçon va moisir là-dedans pendant 18 mois avant qu'on ne le remonte dans une chambre un peu plus saine. Il est devenu un peu sauvage en bas, alors on lui donne un compagnon de cellule. C'est un languedocien comme lui qui s'est attaqué à la marquise, lui aussi, mais verbalement. Il s'appelle Allègre. Les deux jeunes hommes ne tardent pas à comploter. Ils vont commencer par bombarder le lieutenant général de suppliques. Et puis, alors à force d'user de l'encre et du papier, on finit par les en priver, ce qui fait qu'ils vont écrire avec leur sang sur des chemises. Un beau jour, les deux lascars se font doux comme des agneaux. Ils changent complètement d'attitude. Alors, vous allez me dire, ça cache quelque chose. Évidemment, Denry et Allègre préparent un coup. Ce coup, ça va être l'évasion la plus célèbre de toute l'histoire de la Bastille. Les deux amis ont compris que la seule issue possible, c'était la cheminée de leur chambre. Seulement, cette cheminée est obstruée par des grosses barres de métal qui sont fichées dans la maçonnerie. Il va donc falloir, avec une sorte de poinçon qu'ils ont fabriqué tant bien que mal, il va falloir arriver à enlever les barres en question petit à petit. Ils ont également réussi à tresser des échelles de tissu, de draps. Et pendant 2 ans, ils se préparent à cette évasion. Et le soir du 25 février 1755, Denry se glisse le premier par le conduit de la cheminée. Il arrive à sortir les objets, les vêtements dont les deux complices auront besoin. Et puis Allègre le rejoint là-haut grâce à l'échelle de corde. Tous deux vont se faufiler comme ils le peuvent jusqu'à une corniche. De là, ils lâchent la plus grande échelle de corde. Ils arrivent à descendre jusqu'à un fossé du château. C'est très dur, hein, l'eau dans le fossé glacial, on est au mois de février, je vous l'ai dit, ils vont devoir se cacher dans cette eau glaciale pendant pendant des heures. Finalement, ils arrivent néanmoins à passer jusqu'à la fosse voisine, puis jusqu'à un talus, jusqu'au faubourg. Ça y est, ils ont réussi. Cette fois, ils sont libres.
Un extrait sur Europe 1 du troisième mouvement de la 40e de Mozart, Menuetto. Restez avec nous, on retrouve Franck dans un instant avec un récit qui retrace aujourd'hui le destin singulier d'un certain d'Henri.
Bonne heure.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit sur Europe 1 qui nous relate aujourd'hui le parcours de d'Henri et Allègre, les deux évadés de la Bastille, Franck.
Oui, ils sont en cavale, ils ont trouvé refuge grâce à des amis chez les concierges de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Inutile de vous dire que leur évasion a fait sensation. On ne parle que de ça dans Paris. Et à Versailles, Madame de Pompadour est au sans-coup. N'oubliez pas que on l'a entretenue dans ses craintes. La Pompadour, on lui a fait croire, en fait, que ce d'Henri était plus dangereux qu'il ne l'est. On lui a dit qu'elle ne risquait rien tant qu'il était sous les verrous, mais maintenant qu'il est échappé, toute la police du royaume est donc sur les dents. Ça n'empêche pas nos deux fugitifs de filer vers les Flandres. Seulement, à peine Allègre a-t-il passé la frontière qu'il adresse à la marquise une incroyable lettre d'insulte. Et ça, c'est ce qui va permettre à la police de Charles de Lorraine de le repérer, de l'arrêter et de le remettre gentiment aux autorités françaises. Ça valait bien la peine. Quand d'Henri débarque à son tour à Bruxelles, c'est pour apprendre l'arrestation de son compère. Il décide de poursuivre sa route jusqu'aux Pays-Bas. À Amsterdam, il trouve refuge chez un commerçant qui l'emploie et qui l'héberge. Il va même faire là-bas la connaissance d'un gars de son pays, un certain Louis Clergue. Ce Clergue prend d'Henri en sympathie, lui offre des vêtements neufs, une belle chambre. Il lui conseille aussi de partir au plus vite pour les Indes et d'essayer de se faire oublier. Au lieu de quoi, d'Henri écrit à sa mère dans le midi de la France pour lui demander un peu d'argent. Bien entendu, la police de Louis XV est bien faite et le courrier est intercepté. Et au lieu de l'argent de poche attendu, c'est un exempt de police que d'Henri voit arriver à Amsterdam. Il est donc arrêté, extradé par les Provinces-Unies. On lui passe un harnais de force, on le jette dans un bateau puis dans un fourgon et de retour à Paris, on le balance au fond du plus puant des cachots de la Bastille, un cul de basse fosse inondé où il est enchaîné comme une bête sans même une litière, au milieu de la vermine, et on voit notre éternel prisonnier obligé d'apprivoiser un gros rat pour le protéger contre les attaques des autres rongeurs. On peut dire que dans ce genre de conditions extrêmes, n'importe qui dépérirait, mais pas d'Henri, lui il est très résistant. Il a eu l'idée, avec le temps, d'aplatir de la mie de pain. On lui donne un peu de pain et d'eau. Hein, pour moi. Il aplatit de la mie de pain pour en faire une sorte de parchemin et avec une arête de poisson trempée dans son propre sang, il rédige un premier mémoire sur la réforme des règlements militaires. Vous imaginez un peu. Il parvient à transmettre son œuvre à l'aumônier, qui était ému de voir tout ça, qui lui donne du papier pour qu'il puisse mettre ses idées au propre. Il en profite pour rédiger un nouveau mémoire, cette fois sur un système d'impôts indirects. Vous voyez que ce type est bourré de ressources. C'est très dommage qu'il ait été. Ouais. Mais oui, il a été fourvoyé très jeune, trop jeune. Au printemps 1758, les mémoires sont tout de même transmises en haut lieu. Ça change rien pour le malheureux. Il est toujours entravé dans son cachot avec une barbe qui traîne par terre, les gencives fendues par le froid, les yeux tués par la pénombre. Il y a bientôt 10 ans qu'il s'est permis d'approcher trop près du soleil et il le paye. Le 1er septembre 1759, d'Henri est tiré de son cachot, réinstallé dans une cellule normale de la Bastille. Alors on le rase, on l'habille, il se comporte de manière exemplaire. Il va jusqu'à apprivoiser un couple de ramiers qu'il fait porter à Madame de Pompadour pour sa volière. Au lieu de se faire oublier, ce qui serait peut-être plus efficace, le nouveau lieutenant général de police, Monsieur de Sartine, lui conseille quand même de se tenir tranquille. Alors, à force, depuis la plateforme de la Bastille, d'Henri a repéré 2 jeunes blanchisseuses du quartier avec lesquelles il commence à communiquer par signe. Et un jour, il arrive à leur envoyer une lettre qu'il a lestée avec une pierre. Et c'est grâce à cette lettre que les jeunes filles découvrent la raison de la captivité de d'Henri. Elles découvrent qu'il est là à cause de Madame de Pompadour. Ce qui fait que un jour d'avril 1764, pendant la promenade, elles tendent dans sa direction un panneau sur lequel elles ont écrit en grosses lettres « Madame la marquise de Pompadour est morte hier ». Là, d'Henri est tout heureux. Il se dit que cette fois, ça y est, il va pouvoir être libéré. Seulement, les semaines passent et puis les mois, il n'y a pas de nouvelles. Il va finir par céder au désespoir, notre prisonnier. Il mène la vie dure à ses geôliers, ce qui fait qu'on commence à le prendre un peu pour un fou. Finalement, Sartine va lui faire savoir qu'il travaille à sa libération. Latude. Alors vous allez me dire pourquoi Latude? Parce que depuis quelque temps, il a pris l'habitude de se faire appeler vicomte de Latude. Et il précise qu'il est le fils naturel de ce monsieur et qu'il doit être appelé Latude. Bon, bah va pour Latude, si ça lui fait plaisir à ce demi-fou. Latude devrait, dit Sartine, redoubler de discrétion. Eh bien, non. Une fois encore, on lui donne un doigt, il prend le bras. Puisqu'on lui a volé, estime-t-il, les plus belles années de sa vie, on lui doit un dédommagement. Et pas n'importe lequel. 100 000 livres, voilà ce qu'il réclame à l'État. Inutile de vous dire que, du coup, Sartine referme le dossier. 17 novembre 1765, alors là, il y a un brouillard épais hein, dans les cours de la Bastille, une véritable purée de pois, et d'Henri, Latude, pardon, devrais-je dire, en profite pour s'évader de nouveau. « Arrêtez-le !» crie un gardien qui voit qu'il a disparu dans le brouillard. « Arrêtez-le !» crie Latude lui-même, ce qui lui permet effectivement de faire diversion. Et pour la troisième fois, Latude vient donc de s'évader. Décidément, ces prisons, la Bastille et Vincennes sont de véritables passoires. Vers où se dirige Latude? Bien sûr, vers la rue des Tournelles, vers la maison des 2 blanchisseuses, qui l'accueillent à bras ouverts au milieu de leurs draps blancs. Cette fois, on se dit qu'il va se tenir tranquille, qu'il va se faire oublier. Pensez-vous? Il n'a qu'une idée en tête, Latude, obtenir sa fameuse indemnité. Donc il écrit une belle lettre au principal ministre du moment, Monsieur Choiseul. Soit dit en passant, Choiseul était un grand ami de feu la marquise. On lui répond que le ministre est à Fontainebleau, qu'il n'a qu'à se déplacer jusque là-bas pour essayer de le rencontrer. Latude ne se méfie pas. Il voudrait tellement que pour une fois on le prenne au sérieux, hein, qu'on le traite en homme d'honneur. Alors par un froid de gueux, il prend à pied la route de Fontainebleau. Et à Fontainebleau, la police n'a qu'à le cueillir. Retour au cachot. À Vincennes, cette fois, dans des conditions encore plus dures que les fois précédentes. Cette fois, Latude est enchaîné par le cou, presque nu dans le froid, au milieu des cancrelats et des araignées. Et quand il sort de cet enfer, c'est pour se retrouver dans une cellule disciplinaire. Or, il n'est plus aussi jeune, il a 40 ans maintenant. Et chaque année d'emprisonnement compte double ou triple pour la santé, évidemment. 3 ans, 4, 5, 6 ans. En 1774, à la mort de Louis XV, on estime qu'il a perdu plus ou moins la raison et on le conduit à l'asile d'aliénés de Charenton, où il retrouve d'ailleurs Allègre, qui lui est devenu complètement fou. C'est en juin 1777 seulement, après 28 années de captivité, que Latude va être rendu à la liberté grâce au bon Malesherbe. On lui ordonne de regagner son Languedoc natal, mais c'est plus fort que lui, il veut être traité en homme de bien. Et sous prétexte de remercier Malesherbe, le voilà qui va à Versailles. Il encombre les antichambres du palais, il dérange de grands personnages, il fait scandale, il se fait arrêter.
Non, mais c'est pas possible.
Le voilà cette fois dans une prison de droit commun à Bicêtre, au milieu des voleurs à la tire, c'est désespérant. Alors il s'empresse de rédiger un nouveau mémoire de protestation, c'est ce qu'il sait le mieux faire finalement, où il va résumer 30 années d'injustice. Il sous-doit un gardien pour qu'il porte ce mémoire à un magistrat intègre, sauf que le gardien va aller boire un coup avec le pourboire, qu'il oublie le mémoire sur un coin de table et que ce mémoire va tomber dans les mains d'une brave femme qui s'appelle la mère Legros, qui est intriguée par la belle écriture, qui lit le mémoire, qui se passionne pour ce récit incroyable, qui se prend de pitié pour l'auteur et qui demande conseil à son mari. Son mari lit ça, il s'indigne quand même. Et voilà, les deux époux, voilà les époux Legros, qui se trouvent un nouveau but dans la vie. Ils vont plaider la cause de Latude. De tout leur cœur, ils se mettent à remuer ciel et terre. Ils vont eux-mêmes à Versailles, ils se rendent au palais de justice, à l'académie. Le plus fort, c'est qu'ils vont réussir. Madame Legros parvient à intéresser la reine Marie-Antoinette personnellement à cette histoire. Et enfin, le 24 mars 1784, 35 ans après sa mauvaise blague, le soi-disant vicomte de Latude est libéré. Mieux que ça, Louis XVI lui accorde une pension et il lance à son profit une souscription à laquelle s'empressent d'adhérer les plus grands noms du royaume. En 1789, dès le 15 juillet, dès le lendemain de la prise de la Bastille, Latude est là sur les lieux pour assister à la démolition de la célèbre prison. Il demande à la Convention une pension qui lui est refusée. Elle lui sera donnée plus tard par l'Assemblée législative. Et en 1793, Latude ira jusqu'à intenter un procès aux héritiers de la marquise de Pompadour, procès qu'il gagnera du reste. Il ne mourra qu'en 1805 sous l'Empire, désormais riche et connu. La richesse et la notoriété, après tout, vous vous rappelez, c'était bien les buts qu'il s'était fixés quand il était tout jeune et qu'il était arrivé à Paris. Avec nous, dans ce studio, se trouve Claude Quettel, historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et auteur d'un ouvrage sur les lettres de cachet. Ça tombe bien, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette procédure tout à fait particulière de l'Ancien Régime.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire des lettres de cachet aujourd'hui, on vous retrouve effectivement avec votre invité, l'historien Claude Quettel, Franck.
Merci beaucoup Claude Quettel d'être des nôtres. Ça faisait longtemps que je voulais vous inviter, je suis ravi que vous ayez écrit ce livre sur les lettres de cachet, qui du reste est passionnant. Je ne dirais pas qu'il réhabilite les lettres de cachet, mais vous les replacez dans leur contexte et vous montrez qu'elles n'étaient peut-être pas toujours aussi arbitraires qu'elles en avaient l'air.
Oui, c'est vrai, j'essaie de montrer un peu l'envers du décor et de montrer que ces lettres de cachet qui ont été décriées dès avant la Révolution, décriées sous l'Ancien Régime, alors encore plus à partir de la Révolution...
Ah oui, bien sûr, là, avaient, sont devenus un symbole de l'arbitraire
oui,
de l'Ancien Régime.
Avaient leur fonction, leur intelligence, et qu'elles remplissaient un rôle, mais qui était très très important dans la société de l'Ancien Régime, c'est vrai. Et je montre notamment que lorsque le pouvoir demande 10 lettres de cachet, les familles en demandent 90.
Oui. Ce sont les familles qui sont demandeuses, en
oui.
fait, c'est ce qu'on
mais
va
Latude, voir. Mais Latude, c'est le pouvoir.
Alors justement, pour revenir sur Latude un instant, Grégoire nous demande, il dit une question sur cette émission à propos d'Henri dit Latude. Comment se fait-il qu'une personnalité aussi importante que Madame de Pompadour lise les lettres que lui adresse un bagnard? Si moi j'écris à François Fillon, nous dit cet auditeur, je ne crois pas qu'il me lira. D'abord ça, je n'en sais rien, mais pour ce qui est de Madame de Pompadour, il ne faut pas oublier que pour elle, ce d'Henri dit Latude n'était pas du tout un inconnu. Il était celui dont elle pensait qu'il avait voulu l'assassiner. Elle suivait son cas de très près et évidemment tout ce qui arrivait de sa part était lu, épluché. Elle avait un petit côté un peu paranoïaque, Madame de Pompadour, mais il faut dire qu'elle avait su se créer un certain nombre d'ennemis à la cour et qu'elle avait peut-être de quoi faire attention à son entourage.
Oui, non, c'est une très bonne question parce que c'est effectivement complètement étranger à nos modes de pensée d'aujourd'hui. Et sous l'Ancien Régime, on ne plaisante pas avec la sécurité du roi. Et c'est tout le problème de Latude. C'est qu'il s'imagine ensuite, lorsqu'il se fait attraper, que ce qu'il a fait finalement, ce n'est pas si grave, que c'était comme une espèce de mauvaise plaisanterie. On ne plaisante pas avec la sécurité du roi, et lorsqu'on attrape quelqu'un, pas seulement qui a voulu attenter la sécurité du roi, ce qui est quand même très rare, mais simplement qui a dit qu'il pourrait,
voilà.
On lui tombe dessus et on ne le relâche pas. Parce que de deux choses l'une, ou ce qu'il dit, c'est vrai et c'est grave, ou ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, c'est qu'il est fou et c'est grave quand même. Donc Latude va se mettre lui-même dans ce piège infernal dont il ne va pas comprendre ensuite les ressorts. Mais Madame de Pompadour...
Il est d'une naïveté confondante, ce pauvre homme.
Moi, je pense qu'il est un peu fou.
Un peu léger, on va dire.
Même un peu beaucoup fou. Oui. Mais surtout, Madame de Pompadour et Louis XV ont eu très peur. Ce colis piégé qui nous fait rire aujourd'hui, il a fait très très peur au roi et à sa maîtresse. Et donc cette peur, eh bien, Latude va la payer.
Alors, Madame de Pompadour, évidemment, et Latude sont un peu la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. Mais ces lettres de cachet servent surtout de régulation pour, j'ai envie de dire, pour une partie très importante de la population. Expliquez-nous, Claude Quettel, ce que c'est qu'une lettre de cachet. Qu'est-ce qu'on appelle une lettre de cachet ?
En une minute, 35 secondes.
Exactement, 32 si vous pouviez.
Bon, non, parce que je dis ça en plaisantant, parce que ça n'est pas si simple. En fait, la lettre de cachet... C'est un instrument de justice qui a été dénoncé comme étant complètement, avec des gros guillemets, illégal, mais qui à l'époque est complètement légal. C'est la main du roi.
Le roi. Faut pas oublier que la justice sous l'ancien régime vient du roi.
Mais voilà.
Qu'il y a une justice déléguée, qui donc est donnée à toutes sortes d'institutions, mais qu'il y a aussi une justice retenue.
Retenue.
Et cette justice retenue fait que le roi, en dernière instance, peut statuer sur tout sujet, et donc qu'il peut ordonner l'arrestation, évidemment, de n'importe qui.
Voilà. Donc, lorsque le roi lance une lettre de cachet, il est dans son devoir et dans sa mission sacrée de détenteur de tout pouvoir. Alors, ça, c'est le côté, donc ça n'est pas une espèce d'acte
c'est pas de la tyrannie.
De tyran oriental. Par contre, alors, on va dire, oui, mais alors, est-ce que c'est tout ça est très juste? Alors, effectivement, lorsque Louis XIV fait arrêter Fouquet, ça n'est pas très juste.
Ça, c'est un cas politique, mais c'est
politique,
très rare, comme vous le dites, en fait.
Quelques pourcents. Voilà. Quelques pourcents, 80, 90%, ce sont les familles. On est à une époque où la famille est très élargie, elle a un sens aigu de son honneur, et pas seulement les familles de gens très riches ou de nobles. Et lorsque l'un de ses membres se met à dérailler, commence à faire des bêtises, risque d'entrer dans les mains de la justice. On demande une lettre de cachet.
C'est-à-dire la famille,
roi.
Souvent, c'est le mari ou le beau-père, ou enfin, etc.
Oui, enfin, celui qui tient un petit peu l'honneur de la famille. Mais des fois, toute la famille, et puis des fois, tout le village.
Donc, on demande
signe.
Au roi de faire arrêter ou de faire emprisonner une personne, parce qu'elle risque de faire des dettes, ou parce qu'elle a eu un comportement erratique.
Et parce que si... La lettre de cachet n'est pas infamante, elle n'est pas considérée comme infamante, en tous les cas, bien moins que la justice.
Qu'une condamnation.
Donc,
oui.
En fait, l'argument des demandeurs de lettre de cachet à 90% donc des familles, donc pas le pouvoir qui accorde, mais qui n'est pas demandeur, c'est de dire, mais alors, on veut surtout éviter à la famille le déshonneur d'un procès, et d'un procès qui, à l'époque, est le déshonneur total. Et d'ailleurs, les procès d'autrefois, ça se termine plus souvent par le bûcher que par un mois de prison.
Oui. Quand vous dites les familles, ce sont donc de bonnes familles. Ce sont rarement des gens très modestes qui vont aller demander au roi l'incarcération de leur beau-fils ou de leur belle-fille.
Ah, ça peut aller tout de même jusqu'à de petits artisans.
Oui.
Alors, quand même, il faut quand même avoir un certain
pignon,
statut social.
Pignon sur rue, comme on
un
dit.
Un petit pignon sur une petite rue. Mais tout de même, ça n'est pas réservé aux grandes familles.
Mais alors, le roi, évidemment, lui, ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, il envoie des enquêteurs. Il fait faire une enquête, tout de même.
Oui. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, c'est que, quoi qu'on ait pu dire au moment de la Révolution, et ensuite, et même peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces enquêtes sont faites très sérieusement.
Voilà, ça c'est très important. Vous nous dites la police de Louis XIV ou Louis XV, par exemple, est très bien faite.
C'est une police intelligente. C'est une police efficace. On croit rêver, hein. Mais si, ça a existé à une époque, avec très peu de monde, qui fonctionne sur le renseignement. D'ailleurs, la Bastille, l'une des vertus de la Bastille, c'est que la lettre de cachet peut mettre en prison pas seulement un Latude, mais des fois 10, 15, 16 personnes impliquées dans une affaire. Et... elles sont interrogées séparément dans le plus grand secret par le lieutenant de police qui devient d'un seul coup l'as du renseignement. Et la police de l'époque, c'est surtout du renseignement, d'où son efficacité.
Ce poste de lieutenant général de police, il a été créé au milieu du règne de Louis XIV pour un, j'ai envie de dire presque sur mesure pour monsieur de la Reynie.
Oui, 1600, je ne suis pas
1667,
un homme de date,
si
mais 1667,
bonne, hein.
C'est donc l'Araigny qui effectivement est le premier lieutenant général de police de Paris dans une ville énorme pour
l'époque.
Alors
quel est son statut ? C'est une sorte de préfet de police ?
Voilà, c'est un préfet de police, il va s'occuper aussi bien des ordures ménagères que de la sécurité.
Et des crimes.
et du crédit. Et ça devient... Alors, on se transporte à l'époque de l'Attude avec Monsieur de Sartine.
Donc à l'époque des romans de Jean-François Parot.
Absolument, hein. Qui sont très, très bien faits. Et donc,
Nicolas alors, Le Floch.
Oui, et Le Floch. Sartine règne à l'époque. Alors ça devient... c'est un énorme système. Les commissaires de police, ça y est, sont créés. Les 20 commissaires de police des 20 arrondissements de Paris sont là. Et des commissaires spécialisés, les uns sur les Halles, les autres sur les étrangers, les inspecteurs de police, les renseignements.
Donc, pour résumer, une famille est très inquiète du comportement malhonnête d'un de ses membres. Elle demande au roi d'intervenir. Le roi envoie des lieutenants de police qui font une enquête. Et sur cette enquête, il décide ou non d'intervenir. Quand il intervient, c'est donc par la fameuse lettre de cachet. Vous voyez que tout ça n'est pas destiné uniquement à protéger Madame de Pompadour et quelques amis du roi.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nader nous envoie un message par internet et nous dit « C'est tout simplement révoltant d'emprisonner quelqu'un pour une mauvaise blague. Et si c'était aujourd'hui, est-ce que ce serait condamnable ? Par exemple, si quelqu'un tente de pénétrer chez le président ou envoie un colis piégé à l'Élysée, est-ce qu'il peut être condamné par la loi ? Alors, je ne suis pas juriste moi-même, mais je pense qu'en tout cas, il serait inquiété par la police. Ça, c'est une certitude.
Certainement.
Ça ne se passerait pas très bien, je dirais.
Mais encore une fois, c'est sans commune mesure parce qu'on est dans deux univers de pensée complètement différents.
Et ce que je me permets de souligner pour cet auditeur, c'est que notre Latude, là, qui est bien sympathique finalement, qui est assez naïf et qui n'a jamais fait de mal à une mouche, mais quand même, à chaque fois qu'on le libère ou à chaque fois qu'on lui demande de se tenir tranquille, il ne trouve rien de mieux que d'envoyer des mémoires au plus grand ministre, etc. Et ça, je dirais que sous l'Ancien Régime, ça passe très mal. Oui. Nous sommes, nous, habitués à un système démocratique où, à la limite, plus on parle, mieux ça vaut. On est dans un système où pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et quand on commence à se manifester, à se montrer, si je puis dire, eh bien ça se passe mal généralement. Les ministres sous l'Ancien Régime n'aiment pas qu'on les dérange. On peut dire ça, Claude Quettel ?
Non, c'est vrai que c'est, pour parler poliment, que c'est un enquiquineur de première et qu'il va faire tout, mais tout pour avoir les pires ennuis. Parce que la Bastille, il est bien, la Bastille. Alors, il est bien.
Façon de parler. Ça dépend pas pendant les périodes de cachot,
mais c'est
évidemment.
C'est beaucoup plus grave qu'une mauvaise blague, ce qu'il a fait. Donc, il est bien, je veux dire, à la Bastille, on est très bien traité. On mange bien à la Bastille. Le vin de la Bastille est bon. C'est
attention,
comme si j'avais bu.
Alors, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que dans ces fameuses maisons de force, il y a des régimes différenciés en fonction tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Oui.
Vous avez les prisonniers d'État ou qui font partie d'une bonne famille, qui donc sont pensionnés par leur propre famille et bénéficient parfois de très bons, effectivement, de tout un service, presque comme dans une maison particulière.
Oui.
Puis vous avez le tout venant qui, lui, évidemment, est un régime plus sévère.
C'est vrai, mais à la Bastille, quand même, on est plutôt bien traité. C'est en prix de pension, si c'est la pension du roi. On dit qu'on est au pain du roi. C'est une belle expression, être au pain du roi. Et au pain du roi, à la Bastille, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien l'Attude. Quand il va commencer à dégringoler la gamme, Vincennes, c'est moins bien. Charenton, n'en parlons pas. Et quand il est à Bicêtre, c'est l'horreur absolue. Donc, il y a dans les maisons de force du royaume toute une
gamme. Gradation, bien sûr.
Et alors, ce qui est intéressant de l'histoire de l'Attude, c'est qu'il va faire toute cette gamme.
Dans votre ouvrage, vous parlez de ces différentes maisons de force, jusqu'au Mont-Saint-Michel, du reste.
Alors, prison dure, la Bastille à côté, c'est un hôtel 5 étoiles, la Bastille des Mers, on l'appelle la Bastille des Mers, on se fait taper dessus par les moines à coups de bâton, on crève de faim, on crève de froid, toutes choses qui n'arrivent jamais à la Bastille, parce que la Bastille reste un peu sous les yeux du roi. Le roi aime bien lire les rapports de police, que devient le prisonnier un tel. Lorsqu'on est au Mont-Saint-Michel ou au fond du Languedoc...
Quand vous dites le roi, en l'occurrence, c'est ce roi qui a régné si longtemps. Puisqu'il monte sur le trône en 1715, même s'il est encore mineur, et il ne mourra qu'en 1774.
Oui.
C'est Louis XV, qui est un roi de dossier, un roi procédurier qui adore les questions de police et qui lit tous les rapports personnellement. C'est assez étonnant. Ce que ne faisait pas Louis XIV, par exemple. Enfin, moins, en tout cas.
Louis XIV aimait bien les rapports dès qu'il s'agissait des coquettes de la capitale. Il avait ce côté un peu libidineux sur la fin de sa vie. Oh, Louis XV aussi. Par contre, pour répondre à votre question, Louis XV est un roi travailleur, quoi qu'on ait pu dire. Là aussi, l'historiographie en fait un roi futile, volage. Non, c'est un roi travailleur et qui lit tous les rapports, effectivement, du lieutenant général de police.
Il y a, à l'époque, ce qu'on appelle le fameux cabinet noir qui ouvre le courrier. Donc ça, évidemment...
Oui, alors bien sûr, il n'y a pas que les rapports de la... Enfin, ça fait partie quand même du travail de la police.
Mm-hmm.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, la police est faite beaucoup sur le renseignement.
D'ailleurs, ça, c'est encore une grande différence par rapport à aujourd'hui.
Très important, vous avez raison de le souligner. Oui, oui.
Pour revenir à l'époque de
Sartine. On préfère prévenir que guérir, en quelque sorte. Hein.
Voilà. La moitié du budget de la police est consacrée au renseignement.
Il y a des indicateurs partout.
Voilà,
fait,
c'est un très joli mot qui a donné mouchard d'ailleurs. Mm-hmm. Mais 50% du budget de la police va aux mouches. Et donc effectivement, et pas seulement sur Paris, sur l'ensemble du royaume. Et donc il y a une police très bien renseignée qui peut agir. Donc d'abord avec l'aide de cachet. Puis quand l'affaire est grave, la lettre de cachet ne se substitue pas à la justice. Si l'affaire est trop grave, on envoie le gibier de potence à la justice.
C'est une mesure plutôt de prévention. La révolution va tout bousculer, évidemment.
Elle va arrêter tout ça. Mmh. Elle va supprimer les lettres de cachet.
Moderne, en quelque sorte.
Parce qu'on va arriver à la peine de prison afflictive. À l'époque, la peine de prison afflictive n'existe pas.
Afflictive, c'est-à-dire infamante, en quelque
sorte.
Voilà,
Monsieur Ferrand vous envoie, si vous avez le choix entre le gibet et les galères. Mmh. Mais vous ne pouvez pas être condamné à de la prison, à de la peine de prison. Mmh. C'est la révolution qui va changer tout ça, et cette peine de prison va être à temps, ce qui n'était pas le cas de la lettre de cachet.
C'est très très important ce que vous nous racontez. C'est-à-dire que, sous l'Ancien Régime, la prison n'est pas considérée comme une peine. Elle est une sorte de mise à l'écart pour éviter la peine, quelque part.
C'est de la prison préventive en attendant d'être jugé. Mais ça n'est pas une peine afflictive. Ça, c'est une invention du code pénal napoléonien.
Vous avez encore beaucoup de travail, Claude Cattel, parce que voilà ce que nous dit par exemple Patrick. Finalement, ces fameuses lettres de cachet, nous dit-il, avaient la même fonction que les hôpitaux psy de l'ex-URSS.
Je sentais ça venir. Je sentais une question comme ça venir. Moi, il me faut 20 minutes au moins.
Non, mais en tout cas, ce que vous nous faites bien comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette opération programmée d'enrégimentement d'un peuple, en fait.
Non, pas du tout.
On est plutôt dans ce qu'on appellerait, alors avec tout le paternalisme que ça suppose, mais une gestion de bon père de famille. C'est plutôt
bien
ça,
sûr.
L'idée. Hein.
Lorsque Voltaire condamne les lettres de cachet dans ses écrits, il demande une lettre de cachet contre une voisine, Madame Travers, rue de Vaugirard, qui l'empêche de dormir. La lettre de cachet est complètement intégrée au mode de vie de l'époque.
C'est amusant comme cette affaire fait réagir nos auditeurs. Farouk nous fait remarquer, ça va vous faire plaisir, qu'après tout, aujourd'hui encore, avec par le biais des fameuses gardes à vue, l'État bénéficie encore du droit de priver temporairement un citoyen de sa liberté, après tout.
Moi, je pense que la comparaison est un peu difficile. Je pense que si la lettre de cachet existait encore aujourd'hui, on en entendrait parler beaucoup plus.
Ça ferait du bruit, non seulement en France, mais à l'étranger. Il y a un personnage dont j'aurais voulu dire un mot parce que je trouvais son histoire assez extraordinaire et quand même un peu inquiétante du point de vue des lettres de cachet. C'était l'histoire de cette présidente de Saint-Vincent qu'on a citée. Elle était l'arrière-petite-fille de Madame de Sévigné. Elle était l'épouse du président du Parlement d'Aix-en-Provence. On était encore à l'époque d'un de ces parlements dans les différents pays d'État. Et il avait très peur que sa femme soit... Parce qu'elle était très dépensière. Elle avait déjà failli le mettre sur la paille. Et donc il demande une première lettre de cachet. On est très tôt dans le règne, dans les années 1730, le président de Saint-Vincent obtient sa lettre de cachet. Sa femme est donc mise dans un couvent, alors qui est une sorte de... C'est un peu la prison pour femmes de l'époque, en quelque sorte. Mais ce qui est terrible, c'est que cette pauvre femme va rester de lettre de cachet en lettre de cachet et de tentative de récidive en évasion manquée. Elle restera comme ça presque toute sa vie au couvent. C'est quand même terrible, un système qui permet à une famille de faire emprisonner un de ses membres quasiment à vie.
Je n'ai jamais dit que la lettre de cachet, c'est le Club Med. Hein.
Voilà, c'est pour ça qu'il fallait quand même le préciser.
Bon, s'il fallait le dire, on le dit. Mais à part quelques cas comme celui que vous évoquez, où on pourrait un peu discuter sur la validité de la lettre de cachet, la plupart du temps, les clients des lettres de cachet sont tout ce qu'on veut, sauf des petits saints.
Réhabilitation donc d'une institution tellement décriée de l'Ancien Régime. Les lettres de cachet, une légende noire. C'est l'ouvrage de Claude Cattel aux éditions Perrin. Et puis vous venez de faire paraître chez Lattès un nouveau livre, Claude Cattel. Il s'appelle Le canapé de Beria, avec un sous-titre qui me fascine déjà, Mémoire d'un chasseur d'objets. En un mot, de quoi s'agit-il?
Ah, alors là, c'est quelque chose de complètement différent. C'est parce que je suis devenu un vieil homme et que je commence à écrire à la première personne mes souvenirs. Donc mes souvenirs de chasseur d'objets majeurs.
Pour le mémorial
de camp, une bombe atomique, un MiG-21, des morceaux du mur de Berlin.
Le canapé de Beria, c'est donc édité chez Lattès.